Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Il avait choisi de la supprimer en arrivant à l'Élysée. Tout compte fait, Emmanuel Macron renoue avec l'interview du 14 juillet. Des annonces sont attendues en début d'après-midi sur le plan de relance et la situation sanitaire causée par la Covid-19.
L'interview du 14 juillet, une nouveauté pour le président de la République. Stéphane Robert y reviendra dans son billet politique juste après ce journal.
Le chef de l'État qui devrait aussi parler de l'emploi des jeunes. Le gouvernement planche sur des exonérations de cotisations sociales spécifiques. On vous explique.
La cérémonie du 14 juillet, place de la Concorde à Paris, sera notamment l'occasion de rendre hommage aux soignants. Certains préféreront se rendre à la manifestation organisée par des syndicats place de la République.
Des mesures de restriction à nouveau ordonnées en Californie, État américain particulièrement touché par la pandémie. Les restaurants et cinémas fermes, nous irons à Los Angeles.
Les Émirats arabes unis s'apprêtent à lancer une sonde vers la planète Mars, baptisée Espoir. Elle reflète les ambitions de ce pays.
Et en cas de succès, ce serait une première pour une nation arabe. Merci et bravo a lancé hier soir Emmanuel Macron aux militaires réunis dans les jardins de l'hôtel de Brienne. Le président de la République a rendu hommage aux armées mobilisées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Un discours pendant lequel il s'est voulu rassurant sur le maintien des moyens financiers accrus pour les militaires. Pour l'entendre sur la relance de l'économie, sur l'éventuelle deuxième vague, il faudra attendre 13 heures et son interview par les journalistes Léa Salamé et Gilles Boulot. Il donnera le coup d'envoi des 600 derniers jours de son quinquennat. L'enjeu est de renforcer son autorité présidentielle en cette période de crise, Anne Fauquemberg.
Il y aura, c'est sûr, des annonces concrètes sur le plan de relance, la situation sanitaire, l'emploi des jeunes et peut-être la confirmation d'un retour à la planification. Mais surtout, cette intervention, elle s'inscrit dans un enjeu démocratique. Cette nouvelle partie du quinquennat a beau se parer d'un élan de reconstruction, la toile de fond du pays reste à la défiance envers les élites. D'autant plus que la crise sanitaire a révélé des fractures sociales, des dysfonctionnements au niveau de l'État, constate le politologue Luc Rouban.
Le problème est suivant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des gagnants dans cette affaire, il y aura aussi beaucoup de perdants. La situation va être évidemment très tendue et l'idée, ça sera, je pense, aussi de parler de gouvernement de crise, d'union nationale et de tenter de limiter les effets conflictuels des annonces qui sont faites par le Premier ministre et qui interviendra après Emmanuel Macron.
Une répartition des rôles classique donc et qu'on avait un peu oublié pendant la crise sanitaire, tant Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, avait su planter le chef de l'État dans l'opinion des Français. La fête nationale donne à Emmanuel Macron une occasion de reprendre cette posture de rassembleur, mais à moins de 2 ans de la prochaine présidentielle, reste à savoir si les Français seront encore réceptifs à la dialectique, jugée parfois trop complexe, due en même temps.
On le disait, il faut donc s'attendre à des annonces sur l'emploi des jeunes, une priorité nationale décrétée par le gouvernement. Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, il faut des solutions et vite. L'exécutif réfléchit à des exonérations de cotisations sociales spécifiques pour les jeunes, Marie Viennot.
Au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, les contrats aidés spécifiques aux jeunes ont été supprimés, l'argument étant que des baisses de cotisations seraient plus efficaces pour favoriser leur emploi. Progressivement, la quasi-totalité des cotisations salariales et patronales ont donc disparu pour tous les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC, soit 1900 euros net par mois. Les 3/4 des jeunes de moins de 25 ans étant payés moins que ça, leur embauche est donc de fait déjà favorisée. Alors comment aller au-delà et où placer le curseur? À quel niveau de salaire? Quel âge? Pour des allègements temporaires ou pas? Il y a de nombreux paramètres à choisir et pour chacun, il faut tenir compte du coût et de l'efficacité. Les plus qualifiés vont avoir plus de mal, c'est vrai, pour accéder à un travail cet automne, mais c'est pour les jeunes les moins qualifiés que la première embauche reste la plus difficile. Alors que faire? Le gouvernement pourrait être tenté d'augmenter le plafond d'exonération. Mais s'il choisit d'aller jusqu'à 2,5 fois le SMIC, par exemple, le coût dépasse les 10 milliards d'euros. Une récente étude du Conseil d'analyse économique a montré qu'au-delà d'1,6 fois le SMIC, l'effet des allègements de cotisations sur les embauches est faible. Alors faut-il aller plus loin dans ces baisses si elles favorisent surtout les effets d'aubaine? Économiquement, la question se pose, mais politiquement, ne rien faire aurait un coût bien plus élevé, tant la jeunesse a été déclarée priorité des priorités.
Emmanuel Macron reviendra-t-il dans son interview sur les négociations du Ségur de la santé? Les accords sur la revalorisation des salaires des personnels hospitaliers ont été signés hier après-midi par plusieurs syndicats, pas tous. Les soignants seront mis à l'honneur aujourd'hui pendant la cérémonie officielle du 14 juillet, place de la Concorde à Paris. Des festivités réduites dans un format inédit car la traditionnelle descente des Champs-Élysées n'aura pas lieu. 6 organisations syndicales ont choisi cette même date pour une journée d'action nationale. À Paris, une manifestation partira à 14h, place de la République, à l'appel notamment de la CGT Santé. Mais pour le professeur Alain Cariou, médecin réanimateur à l'hôpital Cochin, directeur médical de crise d'APHP, les deux événements ne sont pas incompatibles.
Il peut y avoir cet hommage et que cet hommage n'exclut en rien le fait qu'il y ait d'autres formes de reconnaissance et notamment au travers des négociations qui ont eu lieu dans le cadre du Ségur de la santé et des autres négociations qui seront portées par différents collectifs dans les mois ou les années à venir pour qu'il y ait une meilleure valorisation, notamment sur le plan salarial, des activités des soignants en France. Je pense que les deux ne s'excluent en rien. On peut à la fois considérer que cet hommage est nécessaire, utile et en être honoré encore une fois, sans pour autant se départir du fait et s'associer aux revendications, aux besoins collectivement portés liés à une meilleure valorisation. C'est pas une confrontation, c'est le fait qu'il y a ces deux choses en même temps.
Alain Cariou, invité par l'Élysée, a assisté à l'hommage des propos recueillis par Lina Tagui. Et les accords du Ségur qui prévoient plus de 7 milliards d'euros pour augmenter les rémunérations des personnels hospitaliers, c'est une goutte d'eau pour le collectif Inter-Urgence qui rappelle ce matin que la santé, c'est un budget de plus de 200 milliards. Parmi les quelques militaires qui seront présents lors de cette cérémonie place de la Concorde, il y aura une délégation de marins du porte-avions Charles de Gaulle. L'équipage a été confronté début avril aux rapides contaminations à son bord en cours de mission. Les deux tiers ont été touchés. Aujourd'hui, il se porte bien, Nathalie Hernandez.
Axel, 21 ans, quartier maître sur le porte-avions, va doublement apprécier ce 14 juillet, son premier 14 juillet. D'abord, pour honorer la mémoire du général qui a donné son nom au fleuron de la Marine nationale. Ensuite, pour honorer ceux qui l'ont pris en charge quand il a commencé à ressentir les premiers symptômes du coronavirus début avril.
Je m'en suis rendu compte en mangeant un fruit de la passion qui n'avait pas de goût. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Je suis allé voir à l'infirmerie et ils m'ont dit que ce serait sûrement ça. Et après, avec les tests, ça a été confirmé. Tout le personnel soignant était là pour nous soutenir et on les remercie encore d'avoir été présents pour nous et qui eux non plus n'étaient pas préparés à cette épidémie.
Quant à Sarah, second maître, mécanicienne de la catapulte, elle aussi testée positive au Covid-19, elle a particulièrement apprécié la présence du commandant du porte-avions aux côtés de ses marins jusqu'à la fin de la quarantaine.
On a toujours été tous là, les uns pour les autres, et il n'y a jamais eu de discrimination, quoi que ce soit, on a toujours été présents. Oui, ça nous a fait chaud au cœur de voir que même lui, il était là pour nous aussi, et inversement, nous aussi, nous étions là pour lui, quoi.
Axel comme Sarah n'ont qu'une hâte maintenant, c'est de reprendre la mer.
Nathalie Hernandez. C'est un crève-cœur pour les Lillois, déplore la présidente de la Fédération indépendante des commerçants de la ville, mais c'était la seule chose à faire, dit-elle. La braderie de Lille est annulée, prévue le premier week-end de septembre. Elle n'aura pas lieu à cause de la circulation du virus, ont expliqué la maire Martine Aubry et le préfet du Nord. La braderie accueille d'habitude jusqu'à 2 millions de personnes.
France Culture 8h08, Margot Delpierre, plus de 13 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde.
Dont la moitié aux États-Unis, en Amérique latine et aux Caraïbes. Outre-Atlantique, la pandémie semble échapper à tout contrôle. En Californie, sur la côte ouest des États-Unis, la Covid-19 a tué plus de 7000 personnes et environ 8000 nouveaux cas sont recensés chaque jour. C'est deux fois plus qu'il y a un mois. C'est pourquoi le gouverneur a notamment ordonné la fermeture des restaurants et des cinémas. Dans certaines régions, le reconfinement partiel est encore plus strict, comme à Los Angeles où se trouve notre correspondant Loïc Piala.
Presque un mois jour pour jour après avoir ouvert, les clubs de gym et les lieux de culte doivent donc encore fermer leurs portes. Même chose pour les salons de coiffure de Los Angeles et de 29 autres comtés de Californie, des régions où vivent 80% des Californiens, déjà privés de cinéma, de bars et de musées depuis le week-end du 4 juillet. 320 000 cas, un taux d'hospitalisation en hausse, une personne positive sur 10 testée à LA. Tous ces chiffres ont convaincu le gouverneur Gavin Newsom de revenir en arrière. Ce virus n'est pas prêt de disparaître, prévient-il. Parallèlement, les académies de Los Angeles et de San Diego ont décidé de ne pas rouvrir leurs écoles à la rentrée. Plus de 800 000 élèves devront donc suivre des cours à distance pendant au moins tout l'automne. Pas idéal pour les parents avec un emploi. L'annonce, soutenue par les syndicats enseignants, ne va pas plaire à Donald Trump. Le président américain répète depuis plusieurs jours que toutes les écoles du pays doivent rouvrir à la rentrée, au risque de s'exposer à des sanctions financières.
Derrière les nombres de victimes de la Covid-19, il y a des histoires. C'est ce qu'a voulu rappeler un artiste de rue au Pérou. Avec son épouse, ils ont commencé à peindre leurs portraits sur les murs de Lima, la capitale. Le reportage sur place d'Éric Sanson.
C'est en voyant un jeune homme désinfecter un terrain de sport avec une petite bouteille d'alcool que Daniel Manrique a commencé à photographier ces héros anonymes faisant de leur mieux contre la pandémie. Dirigeant de ce quartier populaire à la réputation mitigée, il a ensuite mis son talent de peintre des rues au service des familles de victimes dont il a compris le drame.
Ces personnes sont mortes si vite que leurs familles n'ont pas eu le temps de les pleurer ni de les veiller un ou deux jours chez elles comme c'est notre coutume. Les peindre sur les murs, c'est une façon d'aider les familles à faire leur deuil, de se souvenir de ces personnes, de leur histoire, comme si elles étaient encore vivantes.
Au sommet de la colline de San Cristobal, Daniel Manrique et sa femme Carla Magan, également artiste, ont peint le portrait d'Eustacia Julca, une vieille dame vendeuse ambulante, obligée de travailler et donc de se mettre en danger dans les rues. Un portrait si réaliste qu'il a ému sa voisine, Olinda Pineda, qui vit dans le quartier depuis 50 ans.
On dirait que Stacia est toujours vivante. C'est comme si je la voyais en train de sourire, comme si elle n'était pas morte, mais toujours ici avec nous.
Daniel Manrique souhaite rappeler que derrière les chiffres de victimes, il y avait des personnes, des rêves et des projets qu'il continuera de peindre sur les murs de son quartier.
3,5 millions de personnes sont à nouveau confinées depuis hier en Colombie. La pandémie pourrait atteindre son pic dans le pays d'ici quelques semaines. Une grande partie des habitants concernés sont ceux de Bogota. La capitale concentre un tiers des cas de Covid-19. Les autorités enregistrent quotidiennement plus de 2000 cas. Et en Hongrie, le gouvernement a décidé de fermer ses frontières à de nombreux pays à compter de minuit ce soir. Pour Washington, les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionales sont illégales. Pékin a réagi à ces propos du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. La Chine estime que ces accusations sont totalement injustifiées. Elle fustige également la limitation des vols chinois à destination de la France. Paris estime avoir agi au nom de la réciprocité. La Chine a réduit ses liaisons aériennes pour éviter l'arrivée de nouveaux malades sur son sol. Encore quelques mots de Pékin. Agacé par les primaires organisées le week-end dernier par les pro-démocratie à Hong Kong, c'est pour la Chine une grave provocation à l'égard du système électoral actuel. 600 000 Hongkongais y ont participé. L'un des militants pro-démocratie les plus en vue, lui, a fui. Nathan Lowe, 27 ans, s'est réfugié à Londres. Les Émirats arabes unis enverront ce soir une sonde à destination de Mars. Il s'agirait de la première nation arabe à y parvenir. Le départ de la mission, baptisée Hope pour Espoir, aura lieu depuis le centre spatial de Tanegashima au Japon. Les Émirats misent de plus en plus sur les nouvelles technologies, une façon de préparer le pays à l'après-pétrole. Sur le plan scientifique, cette mission pourrait fournir des données inédites sur l'atmosphère de la planète rouge. Explication de Sophie Becherel.
Dans sa jeunesse, Mars était très différente. Lac, rivière, l'eau liquide était présente comme sur Terre. Mais elle a ensuite disparu, et notamment en raison de l'échappement de l'atmosphère. Hope va aider à comprendre ce phénomène en regardant à la fois à basse et haute altitude. L'orbite entre 20 000 et 40 000 km de Mars n'a pas été choisie par hasard, explique Francis Rocard, spécialiste des missions planétaires au CNES.
Son orbite est relativement haute altitude, mais elle est marso-stationnaire au moment où elle sera au plus près de Mars. Ça veut dire qu'elle va observer la même zone de Mars pendant une dizaine d'heures. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour étudier tous les phénomènes météorologiques variables. Et on pourra voir défiler les nuages, la sublimation du sol. Et ça va nous donner des informations intéressantes sur la météorologie de Mars.
La météo, c'est la spécialité de François Forget, l'un des scientifiques impliqués dans la mission.
Non seulement on observe Mars dans son ensemble, mais en plus on se débrouille pour regarder Mars à différentes heures locales. Le matin, l'après-midi, à chaque endroit. Et chaque semaine, on aura, pour la première fois, des mesures météo partout, chaque heure de la journée et on verra ça avec l'évolution saisonnière qui est très intéressante. Donc on va vraiment résoudre des énigmes parce qu'il se trouve que nous on a toujours une vue un petit peu limitée, typiquement on regarde l'après-midi et au cœur de la nuit et il nous manque des informations sur ce qui se passe le matin, comment ça évolue. Bon bref, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas.
Ces premières observations ne sont pas attendues avant février 2021, date d'arrivée de la sonde à destination.
Sophie Bécherel, retour sur Terre, un peu de pluie attendue sur le nord de la France. Pour le reste, ce sera souvent très nuageux aujourd'hui. Ciel couvert et température en baisse par endroits. 20 degrés à Lille et Paris au maximum, 22 à Rennes, 26 à Bordeaux et Dijon, 31 à Lyon et 29 degrés à Marseille.